baisser le taux de rayon à travers le monde. Et surtout dans les pays en voie de développement, tels qu'en Afrique, nous avons fait des progrès énormes. Il y a 30, 40 ans, beaucoup d'enfants avaient les oreillons. Maintenant, ça se trouve de plus en plus rare. Ça n'a pas encore été éradiqué, mais nous avons diminué les taux de rayons dans la population.
Mais dans plusieurs pays, surtout les pays développés, les oreillons ont quasiment disparu ou alors le taux de prévalence est très bas. Mais pourquoi en Afrique, ce taux est plus élevé que dans d'autres pays?
Tout dépend du programme élargi de vaccination. Lorsque le programme élargi de vaccination est très efficace, nous trouvons des taux de rayons très bas. Par exemple, un pays que je connais très bien, le Cameroun, il y a peut-être 30 ans, nous avons à peu près 10 à 15% des enfants de l'âge de 4 à 5 ans qui avaient le rayon. Maintenant, nous sommes à moins de 5%. Nous avons fait des progrès énormes. Et je profite de cette occasion pour dire que des vaccins tels que les vaccins de l'oreillon, qui sont des vaccins viraux, ça veut dire que c'est le virus lui-même qui est introduit chez le patient. Mais ce virus est atténué, il est affaibli. Mais il peut toujours générer une réponse immunitaire puissante. Ça veut dire que ce sont des meilleurs vaccins. Les meilleurs vaccins sont des vaccins dont on utilise des virus encore vivants, mais atténués. Ça donne une immunité à vie en général. À quelques exceptions près, l'immunité est la meilleure. Par contre, il y a d'autres vaccins qu'on vous remet l'immunité dans votre corps. Ça veut dire que ce sont des facteurs qu'on appelle, des vaccins qu'on appelle passifs. On vous donne une immunité passive. Cela ne dure que 2 ou 3 ans. J'insiste sur ce sujet parce que depuis un certain temps, on parle du vaccin du corona. Et il y a beaucoup de polémiques. Les vaccins sont des produits très efficaces. Et nous devons être contents que la science a pu permettre qu'on évite des morts à cause du vaccin.
Alors, docteur, comment est-ce qu'on attrape les oreillons?
L'oreillon, c'est une maladie virale. Le virus s'appelle paramyxoviridé. C'est un virus très, très contagieux. Mais ce n'est pas un virus très virulent. Il y a une différence entre la capacité d'être propagée, qui s'appelle la contagiosité, et la virilité. C'est un virus très faible. Sauf quand il attrape un adulte ou un adolescent, c'est un peu plus virulent. Mais en général, chez les enfants, ils n'ont besoin de rien à part contrôler la fièvre et dans certains cas, les méningites qui vont dans le cerveau. À part ça, ce sont des maladies très bénins.
Et donc, s'il y a une personne qui souffre des oreillons, il faut la mettre en isolement?
Oui, il faut l'isoler. Pas en quarantaine, mais il faut l'isoler. Et comme je le dis, il devient une maladie un peu plus grave avec l'avancée d'âge. Ça veut dire que si l'enfant a moins de 10 ans, en général, ce n'est pas un problème. Mais quand ça commence à un enfant de 14 à 16 ans, ça devient compliqué. Et chez l'adulte, c'est une maladie sévère.
Donc, si je comprends bien, les personnes à risque, ce sont les enfants.
Les enfants sont des personnes à risque, oui. C'est une maladie d'enfant, 4 à 5 ans. C'est là où il y a la prédominance de rayon. Mais c'est aussi une bonne nouvelle. En général, elle n'est pas très sévère chez ses enfants.
Alors, docteur, est-ce qu'une femme enceinte peut transmettre les oreillons à son bébé à naître si elle-même, elle en souffre?
Ok, c'est une très bonne question. Et elle revient à ce qu'on appelle l'immunité. Est-ce qu'une femme qui est enceinte a l'immunité? En général, oui. Pourquoi? Parce que quand elle était jeune, elle a aussi pris le vaccin de l'oreillon. Ce vaccin, qui est un vaccin, qui est un virus qu'on inocule chez vous, mais un virus faible, toi-même, tu développes l'immunité, qui est une immunité active, et tu passes cette immunité à l'enfant. C'est le pourquoi on ne fait pas des vaccins de virus actifs aux enfants qui ont moins de 1 an. Parce que pendant les 12 premiers mois, l'enfant vit encore sur l'immunité que la maman a transmise pendant la naissance. C'est le pourquoi on attend jusqu'à 1 an pour donner ce vaccin, puisque vous êtes déjà protégé par la mère pendant les 12 premiers mois.
Et donc, c'est après 1 an que l'enfant recevra le vaccin?
Le premier vaccin de l'oreillon s'est fait à l'âge de 12 mois. On ne peut pas le faire avant 12 mois parce que vous êtes déjà protégé par ce que la maman vous a donné.
OK. En ce qui concerne le traitement, Pierre-Joseph revient. Il veut savoir si cette maladie peut aussi être traitée traditionnellement.
Comme je vous ai dit, il n'y a vraiment même pas de traitement en tant que tel pour l'oreillon. Ce qu'on fait, c'est mitiguer les symptômes. Ça veut dire que quoi? On n'attaque pas le virus. Parce que quand vous dites que quand une maladie virale, le traitement devait être un antiviral. Mais dans ce cas, on ne le fait pas, on ne donne pas d'antiviral. Ce qu'on donne, c'est des calmants, des symptômes. Ça veut dire que vous avez la fièvre, on vous donne un anti-fièvre. Vous avez les maux de tête, on vous donne un anti-maux de tête. Vous avez les douleurs musculaires, on vous donne un anti-douleur musculaire. Voilà tout ce qu'on fait. On renforce le système immunitaire de l'enfant et on lui laisse combattre la maladie par lui-même, qui lui donne, après cette maladie, une immunité active pour tout le reste de sa vie.
Et ça veut dire qu'une fois qu'on a souffert des oreillons et qu'on est guéri, on ne peut plus jamais attraper cette maladie.
Oui, c'est la caractéristique de l'immunité qu'on acquiert par manière active. Avec un peu de nuance, oui, on ne peut pas. Mais depuis quelques années, on a trouvé qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas cette immunité totale. Ils ont une immunité à 95%. C'est le pourquoi plus récemment, on a demandé de vacciner ces gens quand ils sont des adolescents, quand ils vont à l'université. Mais ça, c'est nouveau. Mais le rayon n'est pas parmi ces vaccins dont on a demandé de le refaire. Mais on trouve qu'au lieu de 100% d'immunité, elle est autour de 95%.
D'accord, docteur. Comme c'est une maladie qui est contagieuse, certainement il y a des moyens d'éviter cette maladie. Quelles sont les mesures qu'on doit observer pour éviter les oreillons?
La première chose, c'est que c'est une maladie qui vient en général en pandémie ou en épidémie. Ça veut dire qu'elle est regroupée au moment où elle vient. Quand elle vient, on doit prendre des précautions. On doit prendre des précautions d'isolement. On doit prendre des précautions de ne pas être dans des foules. On doit isoler le malade de ses amis. En général, ce sont des enfants de 4 à 5 ans. Il faut tout faire pour les isoler des autres enfants. Ils ne vont pas à l'école pendant ces moments.
Alors, si les oreillons ne sont pas bien traités ou sont maltraités, ou bien si les oreillons sont négligés, quelles sont les conséquences qu'ils peuvent provoquer dans la vie du malade?
Les oreillons peuvent inflammer d'autres endroits différents de la glande salivaire. Ils affectent les glandes salivaires, mais ils peuvent aussi affecter d'autres endroits. Quels sont les endroits? La méningite. Ça veut dire qu'il va au niveau du cerveau et provoque une inflammation qui s'appelle la méningite ou l'encéphalite. Il va au pancréas, fait une pancréatite, et lorsque ça attaque les organes génitaux, vous pouvez faire une orchite. Vous avez l'inflammation de vos testicules.
Alors, nous avons ce Blaise Tosanga Wonga qui revient. Il dit qu'il a appris que les oreillons peuvent provoquer la stérilité chez l'homme si les oreillons ne sont pas traités. Il veut avoir des informations sur ça.
Oui, comme je disais plus tôt, les trois grandes complications de l'oreillon, c'est la méningite, la pancréatite et l'orchite. L'orchite, c'est l'inflammation des testicules. Et lorsque les testicules s'inflamment, elles diminuent la production de spermatozoïdes. Et la diminution des spermatozoïdes peut entraîner l'infertilité. Oui, mais cela ne s'applique que lorsque l'oreillon attrape un adolescent ou un adulte. Les oreillons chez les enfants de 4 à 5 ans ne mènent pas à la stérilité.
Mais est-ce que cette stérilité-là, elle est traitable ou pas?
Elle dépend du dégât que l'inflammation a eu sur les tubes qui produisent les spermatozoïdes. Lorsque le dégât est partiel, vous pouvez produire. Mais lorsqu'il est complet, il n'y a plus rien qui reste dans l'organe de production des spermatozoïdes. Alors, elle est irréversible.
Et donc là, l'homme va rester stérile toute sa vie sans possibilité d'avoir des enfants.
Oui.
Et pour éviter d'en arriver là, docteur, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer aux hommes qui souffrent certainement des oreillons ou qui négligent souvent les oreillons?
La première chose, c'est d'éviter d'avoir les oreillons. Comment on évite d'avoir les oreillons? On se vaccine. Le programme élargi de vaccination a fait des miracles et continue à faire des miracles. C'est une prévention contre des enfants qui mouraient de l'oreillon. C'est une prévention contre la stérilité. C'est le pourquoi je redis, lorsque nous mettons en place des programmes tels que le programme élargi de vaccination, il sauve des vies. Le premier vaccin a été découvert en 1881 par un Anglais appelé Edward Jenner. Et depuis cette production, il a sauvé plus de 600 millions de vies. Alors, nous devons suivre les conseils des médecins et vacciner les enfants tels que prescrits par l'Organisation mondiale de la santé.
Alors, vous savez, docteur, qu'aucun combat de ce genre ne peut être mené sans l'appui des autorités politiques. Alors, quelle est la part du gouvernement dans la lutte contre les oreillons?
Le gouvernement, et je crois que c'est à travers le monde, on a mis ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination, qui, n'est-ce pas, va de village et de ville en ville pour prévenir les maladies infectieuses. Je sais que depuis plus de 30 ans en Afrique, un programme robuste a été établi dans tous les pays et les résultats sont là. Les enfants ne meurent plus beaucoup de varicelle, de variole, de la coqueluche. Toutes ces maladies ont été rabaissées à cause du programme élargi de vaccination. Ce qui peut nous manquer, c'est des moyens et les ressources pour, n'est-ce pas, atteindre les bas-fonds du village. Mais l'OMS, avec le ministère de la Santé publique, ont mis en place, n'est-ce pas, des solutions à ces problèmes.
Et quelles sont ces solutions? Comment est-ce que vous, les agents de l'État, vous pouvez avoir accès aux personnes qui vivent dans des coins reculés, dans les petits villages, où les gens parfois meurent des maladies bénignes, où les gens peuvent souffrir, par exemple, de la stérilité juste à cause des oreillons? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là?
La politique qu'on utilise, c'est faire l'unité de santé publique, l'unité de base. Augmenter l'accessibilité aux soins de santé pour les malades, ça veut dire que quoi? Ramener la médecine où le malade vit. On doit construire des unités de santé, des petites cliniques dans les plus profonds des villages. Quand vous faites de telle sorte que la structure médicale est proche du malade, le malade, d'une part, se sent responsable de cette structure. Il devient une partie intégrante du management et du fonctionnement de la structure et nous gagnons des deux côtés. Le malade se sent responsable de sa santé et les gens de la santé sont capables de parler le même langage parce que l'unité de santé est dans l'environnement où le malade vit. Ça veut dire que nous pouvons voir qu'ils boivent de l'eau qui n'est pas potable, de l'eau sale. On peut voir que les latrines sont trop proches de la maison. On peut voir qu'il y a des insectes qui rôdent autour. Et tout ça s'intègre. Pour donner une bonne santé, il faut l'environnement et il faut les médicaments.
Merci beaucoup. Et quel est le rôle que la famille, les amis ou les parents peuvent jouer dans la lutte contre les oreillons?
Ouais, c'est l'éducation. D'abord, savoir que c'est une maladie qui peut avoir des effets néfastes, mais dont on peut prévenir. Et la prévention est très simple, c'est prendre la vaccination. Les vaccinations qui se donnent à 1 an et à 5 ans. Lorsque vous êtes vacciné, vous êtes à 95% au moins sûr que vous n'auriez pas cette maladie. Ce qui fait que nous devons vacciner tous nos enfants avant qu'ils n'entrent à l'école primaire. Parce que lorsque vous vaccinez 90% des enfants qui entrent à l'école et il y a 10% qui ne sont pas vaccinés, qu'est-ce qui se passe? Ils contaminent tout le monde. C'est pourquoi on parle de herd immunity, l'immunité de communauté. Toute la communauté doit être vaccinée pour se protéger ensemble.
Vous savez, docteur, il y a des gens qui sont très réticents à la vaccination, parfois même des villages entiers qui refusent la vaccination. Comment est-ce qu'on peut faire pour combattre cette réticence puisqu'elle expose beaucoup de personnes aux différentes maladies comme les oreillons?
Nous pouvons tout simplement les rappeler qu'il y avait certaines maladies qui tuaient nos enfants il y a 50 ans, telles que la variole. Elle n'existe plus. On a éradiqué la variole. Il y a la varicelle qui causait beaucoup de problèmes. Elle existait très peu. Il y a même la poliomyélite qui causait à ce que certains enfants devenaient des infirmes. Nous avons pu stopper tous ces problèmes-là. C'est expliquer aux gens que la médecine est là pour le bonheur et pour la santé du monde. La médecine n'est pas là pour nuire aux usagers. Les vaccins sont là pour nous protéger. Ce n'est pas du poison.
Merci, docteur. Je pense qu'il n'y a pas meilleur conseil pour conclure cette interview. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté d'être une fois de plus notre invité.
C'est un privilège pour moi de participer, n'est-ce pas, à éduquer la population. Merci.
C'était notre discussion sur les oreillons avec le docteur Constantine Tienkou. Il nous a expliqué, entre autres, les complications liées aux oreillons, notamment comment ils peuvent affecter ou compromettre la stérilité chez l'homme s'ils sont maltraités ou négligés. À présent, c'est le moment de suivre Carnet de santé avec Mouhamadou Oumfa.
Nouvelle édition de Carnet de santé avec pour sujet central l'assouplissement des restrictions préalablement prises pour lutter contre le COVID-19. Au menu, le point sur le déconfinement amorcé dans plusieurs pays et l'avis d'un expert. Des manifestations de protestation aux États-Unis qui violent les règles de distanciation physique et inquiètent les spécialistes. Les détails dans cette édition de Carnet de santé. Salut à tous. Après plusieurs semaines de confinement marquées par les fermetures de frontières, de restaurants, bars et autres lieux publics, les interdictions de rassemblement, plusieurs pays ont décidé d'assouplir ces mesures. Cas pratique dans quelques pays, dans cet élément que nous propose Mariama Diallo, le récit est de Dili Diko.
Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a pris le métro dans le Midtown de Manhattan cette semaine, arrivant à la gare Grand Central avant de tenir son briefing quotidien sur le coronavirus. Un tournant pour la ville américaine la plus touchée par le virus.
New York est de retour.
Mais il a demandé aux New Yorkais d'être prudents en utilisant des désinfectants pour les mains et en portant des masques faciaux. Un vaccin contre le coronavirus, a-t-il averti, n'est pas suffisant.
Nous pouvons mesurer l'augmentation du virus. Et tant que nous contrôlons cela, nous pouvons opérer.
Ailleurs dans le monde, les bureaux, les restaurants et les épiceries ont rouvert en Indonésie après 2 mois de fermeture avec seulement 50% de leurs employés et clients, alors que les cas continuent d'augmenter. Et dans certaines régions de l'Inde, des lieux de culte, des restaurants, des centres commerciaux et des frontières d'État rouvrent, marquant l'assouplissement de la lutte contre le nouveau coronavirus en Inde pendant 10 semaines. Même si le pays continue de signaler davantage de cas, le chef d'un centre commercial, Arjun Gelo, n'est pas découragé par l'augmentation du nombre de cas. Il dit que l'industrie du commerce de détail travaille dur pour se remettre sur pied.
Je pense que les précautions que nous prenons devraient donner aux clients un sentiment de satisfaction après avoir vu tout cela.
Au Mexique, certains résidents se disent confus par ce qu'ils qualifient de messages mitigés des autorités.
Malheureusement, les nouvelles nous montrent que les décès et le virus sont toujours en augmentation. Et d'autre part, elles nous disent qu'elles lèvent l'urgence.
Les entreprises de la ville animée de Mexico ont rouvert ces 2 dernières semaines et le président Andrés Manuel López Obrador a récemment passé du temps à visiter le sud du Mexique. En Espagne, pays qui a subi l'une des pires épidémies de COVID-19 au monde, les entreprises ont commencé à rouvrir progressivement.
Pour le moment, nous prenons les choses doucement et nous nous adaptons à la nouvelle situation. C'est tout.
En Afrique, après une fermeture qui a duré plus de 2 mois, l'industrie du tourisme vise un retour en Tunisie. Le gouvernement a autorisé la réouverture des hôtels avec des mesures sanitaires strictes. La propriétaire de l'hôtel Wassila Slim se dit pleine d'espoir.
On espère avoir des clients de toutes les nationalités pour pouvoir redémarrer comme il faut.
Mais d'autres craignent que certains touristes viennent de pays gravement touchés par le coronavirus, ce qui augmenterait le risque pour leurs propres citoyens.
Si le déconfinement permet de soulager les économies de nombreux pays déjà entrés en récession, les experts avertissent qu'il s'agit d'un moment délicat. Le monde est entré dans une phase nouvelle et dangereuse. Le virus continue de se propager, il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées, a déclaré le directeur général de l'OMS. Un avis que partage le docteur Constantine Tienkou, directeur médical et fondateur de la clinique Healing Hands Medical Center en Virginie, ici aux États-Unis.
Cette maladie appelée le COVID-19 a posé un problème non seulement médical d'une part, mais d'autre part économique. Sur le point de vue médical, il n'y a pas de raison d'arrêter le confinement parce que, comme nous avons constaté, la maladie continue à croître. Mais nous faisons face aux politiciens, aux économistes qui ont vu une crise économique sans précédent qui est en train de s'amorcer. En plus, les politiciens qui ont besoin de donner des résultats satisfaisants aux usagers, à la population, voient comment leurs fortunes sont en train de diminuer au jour le jour. Alors, ils ont décidé qu'ils ne vont plus éradiquer cette maladie. Les économistes et les politiciens ont décidé de mettre des mesures de mitigation. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'ils vont diminuer la prévalence de la maladie dans la population sans toutefois l'éradiquer. Nous, en tant que médecins, nous ne sommes pas d'accord. Je pense que nous devons toujours empêcher les gens d'aller s'asseoir dans les restaurants, aller dans les bars, aller dans les milieux où il y a une grande affluence de la population. Et surtout les gens qui ont un âge avancé, 65 ans et plus, ceux-là doivent vraiment éviter de partir de leur maison. Ils ne doivent que sortir en cas majeur. Si ce n'est pas indispensable de sortir, mieux vaut rester chez soi. Nous devons continuer à nous méfier, d'une part. D'autre part, les décisions prises par le pouvoir public fassent en telle sorte que la maladie va se prolonger. Au lieu d'avoir une maladie qui durerait deux quarantaines, ça veut dire qu'à peu près 4 à 6 mois, maintenant nous avons une maladie qui va durer au moins 2 à 3 ans. D'autre chose, c'est le vaccin. Moi, personnellement, j'ai consulté quelques malades qui ont été infectés 2 fois. Ça veut dire que une infection ne confère pas forcément l'immunité. Alors, si une infection active ne confère pas une immunité active, est-ce qu'un vaccin pourrait confiner une immunité active à période prolongée? Ça, c'est des questions qui se dégagent. Alors, la maladie est là pour longtemps, au moins 2 ans. Alors, il faut qu'on s'adapte.
Ici aux États-Unis, le décès de George Floyd, noir américain de 46 ans, mort par asphyxie pendant une interpellation par un policier blanc, a provoqué des manifestations de protestation massives dans plusieurs villes. Bravant les règles de distanciation sociale et la peur du coronavirus, des millions de personnes ont marché dans les rues. Des manifestations qui comportent des risques de propagation du COVID-19 si certaines précautions ne sont pas prises. Voici ce qu'en pense le docteur Anthony Fauci, conseiller de Donald Trump sur la crise du coronavirus. Il s'est confié à Lesia Bakalet.
Comme je l'ai dit depuis un certain temps, les rassemblements de foule sont un risque majeur et se rassembler sans masque est un risque encore plus grand. Avec les nombreuses manifestations, même s'il est clair qu'il est nécessaire d'exercer son droit constitutionnel pour montrer son soutien à une cause qui nous tient à cœur, ma recommandation reste et a toujours été de faire très attention afin d'éviter les endroits bondés de monde. Si vous vous rendez dans ce type d'endroit, ce que je ne vous recommande d'ailleurs pas, mais si vous le faites quand même, assurez-vous de porter un masque et de le garder tout le temps. Le vaccin a produit des résultats indicatifs du fait qu'il est en mesure d'immuniser contre le virus. Bien qu'il ne soit pas possible de garantir à 100% que l'on va avoir un vaccin sûr et efficace, le faire serait d'ailleurs stupide car personne ne peut promettre cela. Nous sommes tout de même prudemment optimistes car nous allons dans la bonne direction. Cette situation se terminera à coup sûr et nous pourrons revenir à la normale. Ce que vous devez faire, c'est rester à l'abri, prendre soin de vous et lorsque vous sortez, vous devez porter un masque et éviter la foule.
La recherche de médicaments contre le COVID-19 se poursuit à travers le monde. En Afrique, les herboristes proposent des solutions thérapeutiques à base de plantes médicinales. Qu'en pense l'Organisation mondiale de la santé? Écoutez.
Il s'agit pour nous d'endosser tout médicament, de nous assurer que ce médicament n'est pas toxique et que ce médicament fasse aussi preuve de son efficacité. Et donc c'est cette étape-là qui n'est pas faite et qui ne permet pas de dire juste par peut-être l'historique d'une tisane que cette tisane pourrait être efficace sur le COVID. Et nous disons toujours qu'un médicament pourrait venir de ce domaine-là, pourquoi pas, et nous n'excluons pas cela, mais nous disons qu'il faut faire selon les standards.
C'est ici, chers auditeurs, que s'achève votre santé, votre avenir. La première partie de cette édition hebdomadaire était consacrée aux oreillons. Notre invité, le docteur Constantin Tienkou, virologue, hématologue, oncologue et pédiatre en Virginie ici aux États-Unis, nous a expliqué entre autres les symptômes qui permettent de reconnaître la maladie. Il a aussi parlé des complications liées aux oreillons, notamment comment ils peuvent affecter ou compromettre la stérilité chez l'homme, s'ils sont maltraités ou négligés. Dans la deuxième partie, vous avez suivi Carnet de santé présenté par Mouhamadou Oufa. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph. Il vous a été présenté